Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bossouma.
Le Rwanda accuse la RDC d'avoir violé son espace aérien avec un avion de chasse le lundi. Information contenue dans un communiqué du gouvernement rwandais publié hier même. La RDC n'a jamais nourri l'intention de violer l'intégrité territoriale de ses voisins, répond le gouvernement congolais. Coopérer ou périr, l'humanité a le choix. C'est ainsi que s'est adressé le secrétaire général de l'ONU à plus de 100 dirigeants mondiaux réunis hier en Égypte pour la première séance de la COP27. Il s'agit soit d'un pacte de solidarité climatique, soit d'un pacte de suicide collectif, a déclaré Antonio Guterres. Madame, Messieurs, bonjour. Insécurité dans l'est de la RDC. Le Rwanda affirme qu'un avion de chasse en provenance de la RDC a violé son espace aérien hier lundi. Cette information est contenue dans un communiqué du gouvernement rwandais rendu public hier. En réaction, le gouvernement congolais indique que la RDC n'a jamais nourri l'intention de violer l'intégrité territoriale de ses voisins. Plus de détails avec Grace Hamzati.
Dans son communiqué, le gouvernement rwandais affirme que c'était à 11h20 d'hier lundi qu'un avion de chasse de type Sukhoi 25 en provenance de la RDC a violé son espace aérien et s'est brièvement posé à l'aéroport de Rubavu dans la province de l'Ouest. Aucune action militaire n'a été entreprise par le Rwanda en réponse et l'avion est retourné en RDC, poursuit le communiqué. Selon le même document, les autorités rwandaises ont protesté contre cette provocation auprès du gouvernement de la RDC qui, selon toujours le même communiqué, a reconnu l'incident. En réaction, le gouvernement de la RDC dit apprendre que dans le cadre des vols de reconnaissance qu'effectuent ses forces armées, un avion de chasse de type Sukhoi 25 non armé a malencontreusement survolé l'espace aérien du Rwanda à la frontière des deux pays. Cette réaction est contenue dans un communiqué officiel publié hier lundi dans l'après-midi. Le gouvernement de la RDC réaffirme que de la même manière qu'elle tient à son intégrité territoriale, la RDC n'a jamais nourri l'intention de violer celle de ses voisins.
Suspendre la participation de la RDC à la communauté des pays de l'Afrique de l'Est et assez réorganiser l'armée et les services de sécurité, construire un mur entre le Rwanda et la RDC sont entre autres les recommandations du parti politique Nouvel Élan au gouvernement congolais dans une conférence de presse lundi 7 novembre à Kinshasa. Blanchard Bongomba, secrétaire général de ce parti d'Adolphe Muzito, estime que ces recommandations constituent des pistes de solution pour mettre fin à l'agression de la RDC par le Rwanda. Blanchard Bongomba est au micro de Paul Matendo Mayamba.
Organiser la sécurité du territoire national et la résistance populaire. Deuxième point, recommandation, soutenir dans l'unité les forces vives de la nation et les FRDC qui se battent au front contre le Rwanda. Troisième recommandation, négocier ni avec le Rwanda, moins encore avec les M23, mais avec leurs maîtres. Comme vous le savez, le Rwanda aussi a ses parrains, parce que le Rwanda, avec sa superficie, avec sa population, son budget, son PIB, le Rwanda ne peut pas se permettre de narguer, de menacer la République démocratique du Congo. Mais si le Rwanda se permet, c'est parce que derrière ces pays, il faut noter qu'il y a de grandes forces qui le soutiennent. Quatrième recommandation, dénicher et exfiltrer, tout infiltrer dans nos institutions, nos forces de renseignement et notre armée. Cinquième recommandation, punir tout acte de détournement de soldes de nos vaillants soldats et radier conformément à la loi tout fonctionnaire qui se rendrait coupable du détournement de soldes destinés aux militaires et aux agents de services de renseignement.
Pendant ce temps, dans le territoire de Walikale au nord Kivu, plusieurs villages du groupement Ikobo sont vidés de leurs habitants depuis tôt hier lundi. La situation est consécutive à la reprise des combats entre deux groupes armés. C'est notamment le Nduma pour la défense du Congo NDC rénové de Guidon et le Front patriotique pour la paix FPP de Kabidon. Selon les sources sur place, les deux groupes se disputeraient l'occupation de ces villages dégarnis des militaires FARDC depuis le 30 octobre dernier. Le récit de Bernardin Nyangi.
C'est entre minuit et 3h du matin que les combattants de Nduma Defense of Congo NDC rénové auraient lancé des attaques simultanées contre les hommes de FPP de Kabidon dans les villages Rusamambu et Bukumbiroa, indiquent les sources de notabilité et celles de l'administration locale du groupement Ikobo. Selon ces sources, les affrontements ont duré jusqu'à l'aube. Conséquence, la psychose s'est emparée des populations de ces deux agglomérations, mais aussi celle de Buleusa, chef-lieu du groupement. Tous ces habitants ont fui leur village, les uns en brousse, les autres vers Kimaka, Merigi, Kanyabayonga et Luofu, au sud du territoire voisin de Lubero. Rappelons que c'est depuis le dimanche 30 octobre dernier que les militaires FRDC qui étaient déployés dans Ikobo ont quitté la zone en raison des urgences opérationnelles dans le territoire de Rutshuru, selon le porte-parole du secteur Sokola 2. Du coup, les deux groupes milices se disputent l'occupation de ces entités, déplorent les notables et cadres de base de cette partie du territoire de Walikale. Goma, Bernardin Yangi, Radio Okapi.
En Ituri, des dizaines de journalistes et des acteurs de la société civile ont bénéficié samedi et hier lundi d'une formation sur la lutte contre la désinformation et le discours de haine à Mahagi et Aru Centre. Nous sommes respectivement à 180 et 300 km au nord de Bunia. Cet atelier est organisé par la section de l'information publique de la MONUSCO dans le but d'aider les participants à éviter ce fléau qui est à la base des violences et de l'instabilité de leurs entités. Ces derniers ont remercié la MONUSCO pour cette initiative, pour la promotion de la paix dans cette province. Reportage de Jean-Claude Loki à partir de Bunia.
Les participants étaient outillés sur les notions de la désinformation et des discours de haine véhiculés à travers les réseaux sociaux et les médias et leurs conséquences sur la société, notamment les violences, le manque de cohésion sociale et même la guerre. C'est le chef de l'information publique de la MONUSCO, Anituri. Ces deux fléaux gangrènent la société. Jean-Tobi Okala.
Il y avait un double objectif. Vous donner des conseils pour mieux faire votre métier et ensuite des outils, vous les donner afin que vous ne tombiez pas dans la propagation de la désinformation et des discours de haine qui sont véritables fléaux, n'est-ce pas, qui gangrènent nos sociétés modernes.
De leur côté, les participants ont fait part de leur manque de formation et se sont engagés à corriger leurs erreurs pour la recherche de la paix. L'un d'eux, Eliezer Pitua.
C'est important que la radio joue pleinement son rôle dans le rétablissement de la paix. Et pour ce faire, il faut qu'on puisse connaître effectivement comment informer objectivement le public de manière à ne pas pouvoir mettre la population dans une situation où on peut encore creuser des plaies qui étaient déjà en train de se cicatriser.
Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
L'humanité a le choix, coopérer ou périr. Il s'agit soit d'un pacte de solidarité climatique, soit d'un pacte de suicide collectif, a déclaré le secrétaire général de l'ONU à plus de 100 dirigeants mondiaux réunis pour la première séance plénière officielle de la COP27 hier en Égypte. Selon Antonio Guterres, le pacte proposé verrait tous les pays déployer des efforts supplémentaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les nations les plus riches et les institutions financières internationales fournir une assistance aux économies émergentes. Le pacte viserait aussi à mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles et à la construction des centrales au charbon et à fournir une énergie durable pour tous. Alain Rung.
Les deux plus grandes économies, les États-Unis et la Chine, ont la responsabilité particulière d'unir leurs efforts pour faire de ce pacte une réalité. C'est notre seul espoir d'atteindre nos objectifs climatiques, a souligné Antonio Guterres dans son discours, rappelant que la planète approchait rapidement des points de rupture pouvant rendre le chaos climatique irréversible. Le chef de l'ONU a déclaré que nous sommes sur une route vers l'enfer climatique avec le pied sur l'accélérateur. Il a ajouté que si la guerre en Ukraine et d'autres conflits ont causé tant d'effusions de sang et de violence et ont eu des impacts mondiaux dramatiques, l'ONU ne peut accepter que l'attention ne soit pas également concentrée sur le changement climatique. C'est la question déterminante de notre époque, c'est le défi central de notre siècle. Il est inacceptable, scandaleux et autodestructeur de le mettre en veilleuse, a-t-il souligné.
Entre-temps, dans le territoire de Businga, province du Nord-Ubangi, 140 km de Gbadolité, les effets du réchauffement climatique se font de plus en plus sentir. Des dizaines d'hectares de forêts déboisées, des cours d'eau qui sèchent et d'autres disparaissent carrément, mais aussi des espèces protégées de la faune qui deviennent rares. Ce tableau sombre est peint par l'ONG Association de la protection de l'environnement et du développement durable de Businga, qui lance un cri de détresse. D'après le président de cette organisation citoyenne qui lutte pour la protection de l'environnement, les autorités du pays, notamment ceux qui ont la charge de l'environnement, devraient se pencher sur cette situation. Le point avec Jacques-Yves Moulima.
Ce tableau sombre de l'environnement est le résultat d'une enquête menée par les animateurs de cette ONG déployée sur 4 axes du secteur de Businga, précisément dans 10 groupements de 24 que compte cette entité administrative. Conséquences directes, baisse des rendements agricoles, la disparition ou l'éloignement des espèces rares telles que les bonobos, voire des espèces végétales à valeur médicinale, comme nous l'explique ici l'ingénieur Albert Elinga.
Perturbation des calendriers agricoles, tarissement, voire disparition de certaines cours d'eau, de la faune sauvage, d'espèces protégées. protégés d'espèces forestières non lignées, escargots, chenilles, champignons, éloignement d'espèces à valeur sylvicole, à valeur médicinale.
Conséquence, la pauvreté s'installe dans la région. Pour tenter alors d'atténuer cette crise environnementale, l'ONG APED a débuté depuis quelques semaines une campagne de sensibilisation des populations autochtones au reboisement du milieu et à la protection des alevins et des animaux sauvages en gestation. Cependant, le président de l'APED, pasteur Justin Mananga, lance un appel aux autorités du pays pour l'installation dans les différents groupements où il y a carence précaire d'eau, des forages d'eau potable et sollicite également l'appui technique, matériel et financier pour permettre à l'ONG d'atteindre les autres groupements afin de protéger l'environnement.
Dans l'actualité aussi, ce conflit foncier qui oppose les prêtres dominicains à l'archidiocèse de Kinshasa sur la concession de la paroisse Saint-Dominique de Limété. L'avocat conseil des prêtres dominicains dénonce l'exécution de manière brutale par les inspecteurs judiciaires d'une réquisition pour infirmation afin de les déguerpir de ce lieu. S'est confiant hier à Radio Kapi, Vincent Kangulumba indique que cette réquisition est irrégulière et invite les uns et les autres à attendre plutôt la décision finale des juges avant tout autre démarche. L'avocat conseil des prêtres dominicains explique au micro de Grâce Hamzati.
Le 1er novembre dernier, sur base d'une réquisition du parquet près la cour d'appel de Makété, des inspecteurs se sont transportés dans la concession des Dominicains pour écrire la suspension des travaux et deux jours après, ils revenaient brutaliser les prêtres, les pères, les religieux. Il y en a un qui a été mis au cachot pendant toute la journée du 1er, de 9h jusqu'à 19h30, malmené, blessé. Il a une incapacité de travail temporaire. Et finalement, le vendredi dernier, c'était un scandale. C'était honteux de voir comment ce que des gens, soi-disant des agents des polices judiciaires, qui entrent dans la concession d'autrui sans présenter les documents qui leur donnent le droit de casser les portes de bureaux, des curés, même la porte de l'église, la grille de l'église. Et ils ont brutalisé le père en le menaçant et tout cela. Donc nous disons que ce spectacle-là ne peut pas se le faire, ne peut pas également fonder un droit légitime dans le chef de l'archidiocèse. Et nous, jusqu'à aujourd'hui, nous disons que nous n'avons jamais vu un seul titre produit par l'archidiocèse au tribunal.
Contacté, le vicaire judiciaire de l'archidiocèse de Kinshasa affirme que ses inspecteurs ont été bel et bien mandatés par le parquet général près la cour d'appel de Matete pour exécution de la dite réquisition et les Dominicains n'ont qu'à obéir. L'abbé Marcel Njonjo ajoute que même Rome avait déjà tranché en faveur de l'archidiocèse de Kinshasa sur ce dossier. Toutefois, des initiatives sont prises en interne afin de rétablir un climat de paix, apprend-on d'une autre source proche de l'archidiocèse. Kasaï Central, la Société congolaise pour l'état de droit salue le recrutement par concours des magistrats, mais relève que cela ne suffit pas pour rendre efficace et pertinent le système judiciaire congolais. Dans un communiqué rendu public lundi, le directeur général de cette structure souligne qu'il faudrait relever d'autres défis majeurs, dont l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats pour garantir la lutte contre l'impunité voulue au pays. Maître Dominique Kambala, dans ses propos recueillis par François Kadima.
En vue de résoudre, entre autres, le sempiternel problème de l'accès des populations à la justice et de la couverture judiciaire de proximité, la société congolaise relève que l'augmentation de l'effectif des magistrats à elle seule ne suffit pas pour rendre efficace et pertinent le système judiciaire congolais. Bien plus, il est impérieux que le gouvernement de la République jugule d'autres défis, entre autres le défi de l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats, le renforcement du système d'intégrité, la garantie de l'indépendance des magistrats, la formation des magistrats, la construction des infrastructures adéquates, l'évaluation de la réforme judiciaire entreprise en 2006. Une fois remplie, la Société congolaise pour l'état de droit estime que ces conditions devraient résolument engager les magistrats dans la lutte contre l'impunité, gage de la paix et de l'émergence d'un véritable état de droit.
Actualité internationale. Exactement 19 mois aujourd'hui, 8 novembre, depuis l'enlèvement et prise en otage du journaliste Olivier Dubois au Mali. Ce journaliste français qui travaille notamment pour Libération, Le Point et Jeune Afrique était en reportage à Gao où il devait interviewer un cadre du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il est depuis retenu en otage et est apparu dans deux vidéos, deux preuves de vie dans lesquelles il explique lui-même être aux mains de ce groupe lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les autorités françaises ont assuré il y a peu à sa famille qu'Olivier se portait bien et qu'elle restait mobilisée pour tenter d'obtenir sa libération. C'est la fin de ce journal, supervisé par Alain Hirogmouchinj, Polydor Bassong à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.